前なんだっけ。
ニラの宇月です。北海道旭川出身です。性格は明るい方だと思います。
ここは定休日もあるんですか。
明日です。
素敵な人、頭のいい人。
頭いいのが好みなの。
Notre coup de projo de du mois, c'est le film April Story, où, comme bien nous en informait François, qui a eu comme titre officiel à sa sortie en France Histoire d'avril, voilà, très littéralement. Donc c'est un film de Shunji Iwai qu'il a réalisé en l'an 1998.
Excellente année de Coupe du Monde.
N'est-ce pas ? Film dans lequel on va retrouver dans les rôles titres Takako Matsu, Kaori Fuji et Seiichi Tanabe. Et puisque c'est lui qui l'avait choisi, je vais laisser à Justin l'honneur de nous présenter le film.
Oui, donc April Story va nous raconter l'histoire de Uzuki, donc une jeune fille qui va quitter sa province de Hokkaido pour s'installer à Tokyo pour poursuivre ses études à l'université. Et alors peut-être avant de développer sur le film, peut-être parler de Shunji Iwai. Donc c'est vraiment un réalisateur culte à la fois au Japon et en Asie. Alors on peut comparer, voilà, au niveau de l'aura, de l'influence, tout ça, en tout cas en Asie. On peut comparer, c'est un peu le Wong Kar-wai japonais en quelque sorte. Et ça reste étrange qu'il n'ait pas percé autant que Wong Kar-wai en France, parce que les films, déjà celui-ci, là, il y avait tout pour que ça... Si ça avait été distribué à l'époque, que ça fonctionne. Il a un univers vraiment singulier, des préoccupations autour de l'adolescence, de la jeunesse, qui se prêtait vraiment à ce qu'il soit connu. Enfin, en tout cas, il est connu en France, mais par une communauté, voilà, des gens qui suivent un peu les choses plus obscures sur le cinéma asiatique. Mais il aurait pu être aussi populaire qu'un Wong Kar-wai, vraiment très facilement au niveau de sa filmo. Ouais, François.
Non, je disais, dont on a quelques représentants ici, d'amateurs de choses obscures du cinéma asiatique.
Tout à fait, de la pop culture asiatique.
On en connaît, hein. Ouais. C'est des gens bien, malgré tout.
Ouais. On les énoncera pas.
Mais voilà, c'est un peu dommage qu'il n'ait pas... Parce qu'il y a deux films de lui qui sont sortis en France. Il y avait Love Letters, dans les années 2000, qui était sorti en DVD uniquement. Et en salle, on avait eu Anna et Alice mènent l'enquête, ce qui était sorti, je crois, vers 2015-2016. Mais pour info, pour vous dire à quel point il est populaire, il y avait un film, pour les gens qui suivent un peu le cinéma d'animation, qui était sorti en 2017 en salle en France, hein, qui s'appelait Fireworks, un film d'animation japonais. Et ce film-là, c'est un remake d'un téléfilm de Shunji Iwai de 1995. Donc pour vous dire qu'on fait des remakes animés cinéma de ces téléfilms d'il y a 30 ans. Donc c'est pour vous dire l'aura culte, et c'est l'imagerie de ces films, ça a imprégné des clips dans la K-pop, dans la culture populaire, donc vraiment...
Comment ça, 95, c'était il y a quasiment 30 ans? Je nie.
Vous êtes vieux.
Tout simplement.
Tout simplement. Et donc, bah, je reviens au film. Donc le film, donc, c'est son quatrième film, après... quatrième film. Donc, ça amène une certaine épure par rapport à ses films précédents. C'est-à-dire, il avait toujours cette préoccupation sur le coming of age des adolescents, des jeunes filles, le passage à l'âge adulte. Mais ça passait par des pitchs un peu plus chargés dans les films précédents. Par exemple, Love Letter, c'était une histoire de deuil. C'était une jeune femme qui perdait son mari. Et puis, alors je ne vais pas raconter tout Love Letter, mais il y avait une espèce de quiproquo qui faisait qu'il y avait des flashbacks autour de leur adolescence, ou la manière dont il avait croisé un premier amour adolescent. Donc ça tournait autour du deuil. Il y avait le film Picnic, qui est une espèce de post-apo avec une histoire autour d'un asile psychiatrique, donc encore chargé. Puis il y avait Swallowtail Butterfly, qui était un espèce de film de SF dans un Japon futuriste, cosmopolite, mais toujours des pitchs bien chargés, où il avait besoin d'avoir quelque chose d'assez chargé pour raconter ses histoires. Et là, il nous fait une sorte d'épure avec April Story, un peu ce qui a pu arriver à Wong Kar-wai quand il faisait Shunking Express, c'est-à-dire on enlève tout, on a au plus simple, vraiment une ligne claire narrative au plus simple, et donc là, ça a l'air tellement simple qu'on pourrait croire que c'est simpliste si on comprend pas bien le film. En tout cas, ça, c'est le, donc les premiers pas de cette jeune femme à Tokyo. Et en fait, ça peut parler à tous les gens qui ont été amenés à quitter un jour leur province, leur petite ville, pour monter à Paris ou à la grande ville, en tout cas pour faire leurs études. C'est-à-dire que c'est les premiers pas, un peu l'égarement qu'on peut ressentir à la fois dans l'université, l'établissement qui est très vaste où il faut prendre ses repères, à la fois dans la vie urbaine où on a du mal un peu à se faire des amis, à faire des connaissances, à la fois se faire des amis aussi à la fac. C'est les mauvaises rencontres aussi urbaines, surtout quand on est une jeune femme, qu'on peut faire à un moment donné, croiser une espèce de pervers dans un cinéma, et puis ça se passe pas très très bien. Donc il y a tout ça, et elle arrive à les, donc Shunji Iwai arrive à mélanger ça avec il mélange ce côté un peu sombre, un peu mélancolique, avec une imagerie complètement flamboyante. C'est-à-dire, si vous voulez, du Japon, Instagram, avant que Instagram n'existe. Donc là, donc ça se passe au mois d'avril. Ça a un sens parce que le mois d'avril, c'est la rentrée scolaire au Japon. Et donc, c'est le renouveau, c'est un nouveau départ, tout ça. Donc, le titre a complètement un sens. Et puis, donc, vous voulez, voilà, de l'Instagram, avant qu'Instagram existe. C'est-à-dire les cerisiers en fleurs qui, avec les pétales qui tombent, la photo diaphane, l'impression d'être dans une espèce complètement cotonneux. Et, mais tout ça en ajoutant le côté un peu sombre, voilà, de cette vie urbaine, cette solitude. Je pense à des éléments de mise en scène, par exemple, à un moment donné, elle essaie de crever l'abcès, de faire connaissance avec sa voisine. Et bien, il y a le côté urbain, on est tous repliés sur nous-mêmes. La voisine n'a pas trop envie de lui parler, puis elle lui dit bon, bonjour, et puis elle lui claque la porte au nez. Puis on a un long plan fixe sur le palier pour traduire un peu ce côté, les liens un peu difficiles à nouer dans la vie urbaine. Il y a tout ça. Et donc, même avec ça, déjà, donc c'est, ça serait déjà, on passerait déjà un moment très sympathique avec ça, puisque c'est du quotidien, mais sans fil rouge, en tout cas en apparence. Mais il y a des petits indices tout au long du film, à un moment donné. Au début du film, on lui pose la question « Pourquoi t'as choisi cette université à Tokyo alors que tu viens d'Hokkaido ?» Puis elle est un peu toute gênée pour répondre, elle sait pas trop quoi dire. Bon, on pense que c'est anodin. Il y a une librairie qu'elle aime bien fréquenter, qu'elle revient souvent. Puis elle demande souvent les horaires d'ouverture, de fermeture. Bon, on se dit « Bon, peut-être elle aime bien venir là, mais il y a peut-être une autre raison. » Et tout devient clair dans les 10 dernières minutes, donc je ne révélerai pas. Et là, franchement, c'était l'euphorie, là, si vous voulez. Mais si vous aimez bien que j'avais parlé de Chungking Express, la deuxième partie de Chungking Express, enfin, la deuxième histoire, où t'es dans un état un peu béat, comme ça, d'euphorie, c'était bien. Bon, mais là, c'est les 10 dernières minutes de quand tout devient clair, quand on comprend tout le pourquoi du comment de April Story. Donc là, ça marche. Donc là, voilà, toutes les gens un peu fleurs bleues, et, tout ça, vous aimez bien les shoujo, tout ça, vous aimez bien les petits moments flottants. Romantique, donc ça prend sens dans les 10 dernières minutes. Donc voilà, je vous laisse dire ce que vous en avez pensé.
Nam.
Oui. Alors Jacques, il y a un autre aspect aussi dans le film par rapport à son personnage principal. Parce que certes, c'est quelqu'un qui arrive dans une nouvelle ville, mais c'est aussi un personnage qui nous est présenté comme, dès le début, ayant une personnalité assez effacée. Ce qui fait que la première scène où elle est présente, en fait, on ne la voit pas. On voit la scène de son point de vue et on voit sa famille tout sourire qui lui dit au revoir et elle a dit rien.
D'ailleurs, c'est la famille de l'actrice, j'ai vu.
Ah ouais ?
Qui lui dit au revoir. C'est une famille d'acteurs en fait, ils sont tous acteurs plus ou moins connus.
D'accord, oh, c'est très marrant par contre. Mm. Et ce qui fait qu'en fait, les portes se ferment et on voit juste une main qui se pose sur la vitre pendant que le train est en train de partir. Et ça, c'est comme ça qu'on nous la présente, comme quelqu'un d'assez effacé. Et c'est quelque chose qui va rester pendant tout le film, c'est-à-dire que, alors il y a des moments où en effet, bon, comme tu disais, elle va voir sa voisine, mais il y a beaucoup de rencontres, c'est les autres qui vont les provoquer avec elle, et pas toujours pour des bonnes raisons. Ouais. Certes, il y a le pervers du ciné, mais t'as aussi la sa camarade de fac qui au début on a l'impression veut apprendre à la connaître, être pote avec elle et tout, et l'invite à un club de pêche pour parrainer quelqu'un pour avoir un bout de canne gratuit, un truc comme ça, je sais plus. Ou même oui.
Par ailleurs, ce qui est assez drôle dans le film, parce que le film a quand même pas mal d'humour, effectivement, cette fille qui se retrouve dans le club de pêche alors que ça la dégoûte de toucher des vers de terre, c'est assez marrant, et on les voit s'entraîner à la pêche aussi sur
le gazon.
Sur le gazon, c'est assez amusant.
Et il y a aussi une scène aussi qui est très drôle au début du film, où il y a l'emménagement. Et t'as les déménageurs commencent à rentrer les trucs. Au bout d'un moment, ils sont là-bas. Tout peut pas rentrer. Il n'y a pas de place. Donc, il va falloir virer des trucs. Et c'est eux qui commencent à choisir ce qu'ils doivent virer, en fait. Et avec elle qui n'ose pas prendre les décisions, qui n'ose pas s'imposer, dire bah non, ça je vais le garder. C'est un personnage qui est assez.
Très effacé.
Mais sauf dans les 10 dernières minutes, où là par contre elle est proactive dans l'action sans raconter ce qui se passe. Où elle a. Pour le coup, elle a un objectif clair. Et elle a envie de faire ça, et donc elle y va, et c'est le moment où elle se révèle aussi le plus. Et c'est le seul moment aussi où elle subit pas ce qui se passe.
François ?
Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que le film dure 1h10 tout mouillé, et moi j'aime beaucoup ce format de film, en fait, parce qu'effectivement ça permet, comme le disait Justin, d'aller à l'essentiel. Et je te rejoins aussi sur l'aspect visuel. Alors je sais pas si c'est du fait aussi de notre génération qu'on a une connexion particulière avec le Japon des années 90, mais c'est vrai que ça a une beauté assez fulgurante. Et aussi c'est avant le passage aux caméras numériques, et en fait on a les plus belles caméras non numériques qui ont jamais existé.
Mais d'ailleurs, je crois que c'est le film suivant, parce que là, j'ai l'impression qu'il arrive à un aboutissement un peu formel de niveau de la pellicule, et le film suivant, il va passer au numérique, mm-hmm. avec un film qui s'appelle, que je recommande, qui est incroyable aussi, c'est All About Lily Chouchou. Ouais. Mais pour le coup, c'est un film beaucoup plus sombre, mais où on a cette esthétique-là, mais avec la patine du numérique, pour traduire autre chose, et où il anticipe pas mal d'éléments de notre usage, qu'on aura des smartphones. Enfin, c'est un film assez visionnaire, que peut-être on le fera un futur coup de projo un jour, mais un film assez incroyable aussi.
Il y a aussi un truc qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est son côté assez littéraire. Alors elle est souvent dans la librairie, souvent il y a des histoires de livres, et aussi il y a tout ce moment où dans le train elle va répéter le nom de l'université où elle va aller, donc ce qui aura un sens dans le film par la suite. Et ça m'a fait beaucoup penser à La Recherche du Temps Perdu à Proust, où il est obsédé comme ça par des noms de villes, et il les répète notamment dans le premier tome. Il y a deux chapitres très étranges qui s'appellent Nom de pays, le nom, et nom de pays, le pays. Et c'est-à-dire la confrontation du réel par rapport à l'imaginaire qu'il avait en fonction du nom, du lieu. Et il y a toute cette scène où elle est complètement obsédée par le nom, qu'elle se met à le répéter en boucle. J'ai trouvé ça vraiment très joli. J'aurais peut-être une petite réserve sur la musique, que je trouve pour le coup est un petit peu présente dans le film. C'est vrai que tu parlais de moments suspendus, mais ça a ce côté un peu comme tu disais Wong Kar-wai aussi tout à l'heure, où des fois t'as des leitmotifs musicaux qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Moi j'avoue que je suis peut-être moins sensible à ce genre de choses, puis ça souligne un peu le côté film un peu romantique. Je dirais que c'est la dimension un petit peu plus commerciale du film.
Film romantique, bon, on n'en dit pas trop, mais dans les 10 dernières minutes.
Oui, c'est vrai que
ça n'arrive pas à n'importe quel moment, sans rentrer exactement dans le détail, mais sinon c'est du quotidien pendant tout le film.
Oui, ça
et
c'est...
Et tout d'un coup, tout s'emboîte. Mais c'est marrant que tu parles du côté de l'opposition un peu entre cet aspect rêvé, parce que pendant tout le film, on va dire, l'esthétique du film, il y a un aspect rêvé, vraiment rêveur, fantasmé du Japon, comme tu dis. Mais paradoxalement, alors que ce qui se passe dans le film n'est pas toujours forcément joyeux, un peu mélancolique, alors que paradoxalement, au moment où arrive la météo un petit peu plus moche, la pluie, c'est là où il y a l'euphorie intérieure du personnage. C'est-à-dire un contraste comme ça, où il confronte le côté rêveur radieux avec une tonalité plus sombre dans ce qui se passe. Et à la fin, le côté rêveur est moins présent dans l'environnement, mais il est présent dans le point de vue du personnage par rapport à ce qui se passe à la fin du film.
Très belle scène d'ailleurs, sous la pluie, avec une mise en scène d'échange de parapluies assez complexe en fait, finalement, puisque ça peut être quelque chose de très simple, elle sort, elle a besoin d'un parapluie, etc. Et qui est assez marquant. Il y a quand même, je dis que le film a une certaine simplicité, mais c'est vrai que c'est plutôt une simplicité dans ce qui va être énoncé et montré. Après, c'est très sophistiqué quand même au niveau de l'image, au niveau de la mise en scène, il y a quand même beaucoup de matière, on va dire.
Non, mais c'est un film qui a l'air simple. Ce que j'aime bien, c'est-à-dire que c'est simple dans ce que ça raconte, mais c'est pas simple dans ce que ça dit.
Exactement.
C'est ça qui est intéressant. Ouais. Et puis, il y a le côté, pour suivre, c'est-à-dire tout le film, on vit dans un rêve, Mais la fin du film, c'est quand même c'est la poursuite d'un rêve au final dans ce que tu comprends. De... Et puis c'est quand même une fenêtre sur le Japon. Alors maintenant, avec la pop culture, tout ça, tout le monde est... Enfin, tout le monde n'est pas allé au Japon, mais avec les animés, tout ça, on sait comment ça se passe le quotidien au Japon. Mais mine de rien, je pense que quand on découvrait ce film à une certaine époque, c'est une fenêtre sur le Japon. Déjà le mois d'avril, que ce soit la rentrée, je pense que tout le monde ne le sait pas. Le fait que tu aies une grande présentation de la fac au début, là, cette espèce de grande présentation où tous les élèves sont présents et puis le directeur qui fait... Là, on n'a pas ça en France, quoi. Ouais, je crois. Peut-être dans les grandes écoles, peut-être, mais à la fac, tu n'as pas ça. Tu arrives et puis tu te démerdes, il n'y a pas de grande présentation très solennelle comme ça. Il y a
puis le groupe à la fin de la présentation qui fait l'hymne de l'université aussi. Oui, mais c'est ça, c'est des trucs qu'on a vu dans des animés plein
même
de fois.
Même le côté club, le côté que tu dois adopter, parce qu'avec les animés dans les lycées maintenant, le côté club, on connaît ça, que tu dois adopter un club, mais c'était pas si évident que ça en 98 si tu découvrais le film.
D'ailleurs, sans doute, le film, comme tu le disais, Shinji Iwai, il rayonnait en dehors du Japon et je pense qu'il a prévu aussi de montrer la culture à travers le film.
Et même ce que tu dis sur les parapluies, en fait, les parapluies, il y a quelque chose au Japon comme ça, c'est-à-dire que l'objet le plus volé au Japon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délinquance au Japon, mais l'objet le plus volé, c'est les parapluies, parce que quand tu vas dans un magasin, il pleut, ils ont des petits espaces où tu poses ton parapluie pour ne pas mouiller à l'intérieur du magasin. Et des fois, il y a des gens, quand ils n'ont pas de parapluie, ils sortent, ils prennent le premier parapluie qui passe. Et donc, c'est l'objet le plus volé. Donc, il y a toute une culture comme ça du parapluie.
Je ne sais même pas si on considère que c'est volé. Parce que dans l'un, c'est tellement dans la culture. Tu rentres, tu laisses ton parapluie, tu sors, tu prends un parapluie. Les parapluies, ils coûtent 100 yens, enfin 1 euro. Les petits parapluies noirs que tu trouves un peu partout. C'est un peu un bien commun, en vrai.
donc, mine de rien, même la scène finale qui a l'air un peu anodine comme ça, même là, ça révèle quelque chose de très spécifiquement japonais. Ou même va chercher le parapluie, elle revient. Enfin, c'est quelque chose de assez spécifiquement japonais, ou quand il y a une certaine personne qui veut lui prêter un parapluie à la fin, tout ça.
Ou même au tout début du film, t'as les livreurs qui demandent leur chemin à un chauffeur, et tu vois une famille qui va certainement partir à un mariage habillée en tenue traditionnelle qui rentre dans la voiture.
Non, c'est vraiment, il y a un exotisme, alors peut-être moins maintenant qu'on est plus féru de culture japonaise, mais il y a quand même un certain exotisme qui fonctionne encore sur des éléments du quotidien japonais. Ça rajoute au charme aussi, je trouve.
Et d'ailleurs, il y a un mot en japonais qui désigne le fait de partager un parapluie avec quelqu'un. Ça se dit « ai-ai kasa ». Voilà.
On te croit sur parole. On n'ira pas vérifier.
Bon, bah, ça a dû jouer. Il y a plein de trucs romantiques qu'on a dû y aller. Ça a dû être utilisé, ça. Donc voilà, très bon film, hein, April Story. Une heure en plus, ça dure une heure. Donc,
oui, franchement, il n'y a pas grand chose à perdre à le regarder.
En tout cas, c'est une bonne porte d'entrée. Voilà, si vous connaissez. Je pense, avec Love Letter ou celui-là, c'est une bonne porte d'entrée quand vous ne connaissez pas du tout Shinji Iwai. Et après, vous pouvez y aller. Anna et Alice, La Botte, Lily, Chouchou. Si vous voulez des choses un peu plus sombres, moins lumineuses. Donc c'est vraiment un cinéaste passionnant.
Eh bien, merci beaucoup à vous tous pour cet échange autour de April Story.
La troisième rangée est votre podcast mensuel des sorties cinéma. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix et à partager nos émissions.